Vous vous êtes déjà fait aider par quelqu'un dans la vie?
Oh, bien sûr, hein? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a toujours du monde qui m'aide. Ah, voilà, voilà. Il y a toujours des gens qui m'aident, hein? D'ailleurs, ils m'aident toujours au bon moment, au bon endroit. Ils arrivent toujours pour m'aider, hein? Sans oublier, ceux qui m'aident dans l'ombre. Alors, habituellement, il y a du monde, hein, qui m'aide dans l'ombre. Ils m'aident dans l'ombre. Ah, ce sont des bonnes personnes, hein. Ce sont des bonnes personnes qui vous protègent, hein. Je me souviens une fois, hein, dans le cadre de mes activités, hein, comme militant politique, hein, il y a quelqu'un qui est venu me sortir que, ah, qui est venu me sortir d'un guet-apens. La personne est arrivée parce que quelqu'un d'autre lui avait demandé de venir me chercher. Il est venu, il m'a ramassé, il m'a dit de monter son auto. Ah voilà, je suis parti avec lui. C'est par la suite que je me suis rendu compte que j'étais pris dans un guet-apens. Alors voilà, ce sont des anges. Moi, je les appelle des anges. Les personnes qui m'aident et qui gardent beaucoup de discrétion. Alors, ce sont de grands amis, ce sont des anges. Moi, je les ai toujours eus, hein. Ah, il y a toujours quelqu'un qui m'aide dans l'ombre. Et j'apprécie beaucoup, hein. J'apprécie énormément leur discrétion. Mais ils savent très bien que je les aime beaucoup, hein. Ils savent très bien qu'ils m'aident. Ah, il y a toujours eu quelqu'un qui m'aide, hein. Mais d'autres fois encore, hein. Alors, ils vont toujours t'aider, hein. Ah, voilà. Ce sont des personnes qui vont t'aider et ils se cachent même pour t'aider. Alors, ils disent pas grand chose. Ils parlent pas fort. Mais ils vont vous aider. Ah, voilà. Donc, les personnes qui vous ont aidé, mais est-ce que vous avez déjà pensé comment faire pour pouvoir les remercier? Ah, mon ami, écoute. Les personnes qui vous aident, habituellement, ils ne vous demandent rien. Ils vont vous aider et ils vont surtout vous aider parce qu'ils apprécient ce que vous faites. Alors, moi, j'ai toujours dit, hein, je le dis encore et je le répète encore. Les personnes qui vous aident vraiment, ce ne sont pas des personnes qui font beaucoup de bruit, mon ami. Ceux qui vous aident, ils sont cachés en arrière. Et à chaque fois que vous avancez, ils sont toujours avec vous. Alors, ce sont des gens qui m'ont aidé, hein. Que ce soit ceux qui vous permettent de trouver une job, hein. Qui vous permettent de trouver quelque chose. Qui vous permettent d'évoluer. Qui vous donnent des idées. Et qui partagent des idées avec vous. Ou bien qui discutent avec vous, hein. D'ailleurs, je l'ai souvent remarqué que les personnes avec qui je discute, et puis qui m'apporte de grandes idées. Parce que le plus souvent, quand vous êtes dans l'arène, quand vous êtes dans quelque chose, vous vous impliquez dans quelque chose, les vraies personnes qui vont vous aider, ah, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Ce ne sont pas des gens qui sont dans votre domaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont une belle distance. La distance qu'ils ont par rapport à ce que vous faites, par rapport à la pensée qui vous envahit, alors donc, dans ce cas-là, ils sont mieux placés pour pouvoir vous aider, vous insuffler, pour vous donner, pour partager avec vous des choses, des points de vue que vous n'auriez même pas soupçonné, hein. Alors voilà, il y a toujours quelqu'un quelque part qui se cache dans l'ombre pour m'aider. Alors voilà, ça m'a toujours aidé, hein. Vraiment, là, ce sont des anges. Moi, je crois toujours que j'ai des anges qui sont cachés quelque part pour moi, qui me protègent. Et qui me protègent contre moi-même, des fois, hein, vous le savez. Hein. Ils arrivent même à me protéger contre moi-même. Malgré le fait, parce que quand on est tellement imbibé par quelque chose, on a tendance à ne pas voir clair dans les choses. On est tellement coincé, on a tellement... Hein, les yeux, ah, voilà, vous avez tout compris, hein. Alors, en pensant très clairement, si on regarde les choses de près, Donc vous pensez que vous que qu'il y a toujours quelqu'un, qu'il y a toujours du monde dans l'ombre pour vous aider? Ah bien sûr, hein, bien sûr. Mais il faut pas surtout penser à ça, hein. Il faut surtout penser à l'autre côté de la chose. Pensez à la manière que vous devez utiliser pour aider les gens à vous aider. Voilà la réalité de ce qui est essentiel. Voilà, ça c'est encore plus important. Hein. Voilà, c'est très important de penser comme ça. Hein. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Parfois, nous devons aider les gens à nous aider, hein, en faisant ce que nous faisons. Alors, en faisant bien ce que nous faisons et en les invitant à nous aider, hein, en ayant la stratégie appropriée, en ayant la meilleure manière de nous faire aider par les personnes qui sont susceptibles de nous aider. Alors, comme dit le dicton, aide-toi, le ciel t'aidera. Ah, ce n'est pas de la Bible, hein, vous le savez très bien. Bien sûr. Ce sont les pensées des philosophes également qui sont rentrées là-dedans. Alors, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors, bien sûr, ce n'est pas écrit dans la Bible. Bien sûr, mon ami. Mais, pour de vrai, nous devons aider parfois les gens à nous aider. C'est vrai que j'aime pas cette idée-là, hein, d'aider les gens à m'aider. Mais, dans les faits, c'est toujours très important d'aider les gens à vous aider. Alors, c'est la seule manière que vous avez également pour pouvoir éviter tout conflit, hein. D'ailleurs, quand vous regardez surtout, parfois quelqu'un essaie de vous faire du tort. Mais quand la personne essaie de vous faire du tort, mais vous avez quelque chose en vous qui va l'empêcher de vous faire du tort. Pourquoi? Parce que vous avez ce petit quoi, hein, ce je ne sais pas, ce je ne sais quoi, qui est capable de vous aider. Alors dans ce cas-là, vous pouvez aider les gens à vous aider. En aidant les gens à vous aider, vous vous aidez vous-même. Alors voilà la réalité de ce pays. Alors si vous comprenez cette histoire-là, vous pouvez penser aux jeunes qui évoluent en Haïti présentement. On peut se poser la question à savoir, est-ce que les jeunes haïtiens arrivent à se faire aider, à aider les gens à les aider? Vous comprenez, hein? Bien sûr. Alors, donc, on peut se poser la question, est-ce que les jeunes haïtiens qui vivent dans le pays actuellement arrivent à aider les politiciens, les hommes d'affaires, à les aider? Ah, voilà. Si vous saisissez cette histoire-là, comme ça, alors on peut se demander si les jeunes haïtiens également sont préparés pour la réalité du pays, la réalité économique, politique et sociale du pays. Est-ce que les jeunes haïtiens actuellement sont préparés, pour ne pas dire bien préparés, est-ce qu'ils sont bien préparés pour pouvoir réussir leur vie dans le pays? Ah, voilà, mon ami. Alors, voilà. Alors, si on saisit ça, alors on peut se poser la question. Et une fois que la question est posée, maintenant, il faut se demander comment faire pour pouvoir y arriver. Hein? Bon, d'un côté, on peut dire qu'ils sont préparés. Ils sont préparés parce que la majorité des jeunes haïtiens qui sont allés à l'école, ils réussissent. Ceux qui sont entrés à l'université, ils arrivent à obtenir leur diplôme. Mais sauf que, avec les contraintes sociales, les contraintes économiques, les contraintes culturelles du pays, les contraintes politiques du pays, alors on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment préparés pour pouvoir affronter les réalités économiques, politiques, sociales, culturelles et économiques du pays, hein, surtout financières, hein. La réalité financière du pays ne leur permet pas, hein, de s'émanciper, hein. Alors voilà. Pourquoi ils ne sont pas encore bien préparés? Parce que premièrement, quand vous pensez à des jeunes dans le pays, vous pouvez vous dire carrément que, quasiment que la majorité des jeunes, ceux qui sont diplômés ou ceux qui ne sont pas diplômés, la majorité ne travaille pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'il n'y a personne qui crée des emplois pour des jeunes dans le pays. D'un côté, on peut le voir comme ça, que la société devait se préparer pour pouvoir mettre à la disposition de tous les jeunes du pays, dès qu'ils ont 15 ans, 16 ans, pour commencer à travailler. C'est exactement ce qui se fait dans les pays développés. Hein. Les jeunes, dès qu'ils arrivent vers l'âge de 15 ans, 16 ans, ils ont déjà un petit boulot, ils ont déjà une job, ils ont la chance d'aller chercher une petite job. Mais en Haïti, il n'y a pas ça. Il n'y a personne qui prépare le terrain pour les jeunes. Par conséquent, les jeunes se retrouvent tout seuls. Mais ça, c'est un point de vue. Ça, c'est une manière de voir le même problème. Par contre, si on change l'angle des choses, si on se déplace pour voir le même problème différemment, c'est de la manière que je procède habituellement. Je prends un angle, je regarde comment ça se présente. Je tourne autour jusqu'à ce que j'arrive à voir tous les contours, tous les pourtours du problème en question. Ça me permet d'avoir une bonne idée du problème. Alors, prenons par exemple le même problème de la réalité du marché du travail pour les jeunes. Est-ce que le marché est préparé pour accepter, pour absorber les jeunes qui veulent un emploi vers l'âge de 15 ans, 16 ans et jusqu'en montant? Ou bien même quand ils sont devenus adultes, est-ce que le marché leur permet de réaliser leurs rêves? Alors voilà, vous êtes à fleur de l'âge et que vous pouvez penser que vous allez avoir une job, vous avez beaucoup d'espoir dans votre tête, mais il n'y a plus rien, il n'y a personne qui vous prépare quelque chose, il n'y a personne qui attend pour vous, qui prépare un emploi qui vous attend. Alors par conséquent là, il faut voir le problème différemment. Alors voilà l'expérience que j'ai faite. Et j'aimerais partager certaines expériences que j'ai faites avec vous pour pouvoir vous permettre de découvrir Haïti sous un autre angle. Alors voilà la réalité. Il ne faut s'attendre rien de personne. Alors voilà mon point de vue à ce niveau-là. Bien sûr que si quelqu'un veut nous aider, si quelqu'un arrive à mettre des infrastructures, si nous arrivons à avoir de bons dirigeants, si nous arrivons à avoir de bons maires de ville, de bons ministres, si nous arrivons à avoir de bons responsables, de bons dirigeants, alors eux, ils devaient être en mesure de monter des projets, de financer des programmes qui permettent l'embauche ou la création d'emplois pour les jeunes dans le pays. Ça, c'est une réalité. Ça, on peut aller le réaliser en même temps. Mais de l'autre côté, si on prend du côté des jeunes, comment créer l'argent dans le pays? Voilà, c'est ce qui fait toute la différence. Les jeunes sont capables de créer de l'argent et de créer leur propre boulot dans le pays. Pourquoi? Parce que le pays, c'est un pays vierge. Quand on parle de pays vierge, Haïti, c'est le pays qui offre plus de possibilités présentement. Dans les autres pays, presque tout est saturé. On a déjà développé des projets, on a déjà créé des conditions d'emploi pour beaucoup de monde, et même pour des générations à venir. Ça, c'est une réalité, on peut pas l'oublier. Et on peut pas passer en dehors de ça. Mais chez nous, par nous-mêmes, en tant que jeunes, nous pouvons créer nos propres boulots. Pourquoi? Parce que tous les problèmes sont criants, mon ami. Tous les problèmes sont là. Alors, quand il y a beaucoup de problèmes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Voilà la réalité. Les opportunités naissent à partir des problèmes. Alors, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a du monde qui sont capables. Si on est capable de réfléchir sur ces problèmes-là, alors on va trouver des solutions. Voilà pourquoi on peut dire que Haïti, c'est un pays vierge. Haïti, c'est un pays vierge parce que tous les problèmes sont là. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a personne qui a offert des solutions. Alors voilà. Pour des jeunes qui cherchent du boulot. Prenons par exemple quelque chose qu'on a déjà parlé là-dedans, hein. On a déjà abordé cette question-là. On avait abordé la question du nettoyage des rues. Pourquoi des jeunes n'arrivent pas à s'organiser pour pouvoir offrir leurs services de nettoyage au pays. Ah, vous imaginez, hein, tous les jeunes qui se mettent dès jeudi et vendredi, samedi. Bon, on peut dire 3 jours par semaine qu'ils travaillent. Hein, ils vont travailler 3 jours par semaine. Alors, donc, ils vont travailler les vendredis, les samedis et les dimanches. Alors, des jeunes, alors, bien sûr, il y a un problème du capital, mais comment ils vont faire pour obtenir le premier capital? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, hein, ils n'ont pas des parents qui ont beaucoup d'argent. Bien sûr, mon ami, c'est le problème du premier capital initial, c'est-à-dire le capital qu'on a besoin pour pouvoir partir quelque chose. Mais si vous réfléchissez bien, vous allez savoir que il faut pas seulement parler du capital en termes de capital d'argent. Les jeunes ont un autre capital qu'ils peuvent maximiser le maximum possible. C'est le capital social. Le capital social. Alors vous pensez qu'on peut être des capitalistes socialistes? Non. Est-ce que vous pensez qu'on peut être des capitalistes socialistes? Hein? On peut accumuler du capital social? Bien sûr, mon ami. C'est quoi le capital social? Ce n'est pas le capital socialiste. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ce que je parle de préférence du capital social. Comment constituer plusieurs valeurs sociales pour les transformer en capital social? Le capital social, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la capacité à se mettre ensemble pour créer une organisation, pour créer un nom social, pour créer une entreprise sociale, pour créer une institution sociale. Alors, le capital social, c'est les amitiés entre des amis. Alors voilà, si vous avez des jeunes dans le pays, des jeunes dans les quartiers, alors vous pouvez prendre plusieurs jeunes, vous les mettez ensemble. Alors si plusieurs jeunes décident de se mettre ensemble, vous imaginez dans tous les quartiers de Port-au-Prince. On prend juste un exemple de Port-au-Prince. Parce que j'ai grandi également à Port-au-Prince, ça reste toujours dans ma tête. Mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre ville. Dans n'importe quelle autre ville, je crée la même chose. Parce que c'est la même chose, hein. Il faut juste étendre la même organisation partout. Alors, prenons par exemple le capital social des jeunes. Alors, si vous avez des jeunes qui arrivent à s'organiser, par quartier surtout. Alors par quartier, ils peuvent monter une organisation et l'organisation devient une entreprise. L'entreprise qui va s'occuper à nettoyer le quartier. Alors donc, ils sont un comité, ils ont créé une association. Dans cette association-là, il y a un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un secrétaire. Alors, vous avez un vice-président. Alors, vous avez une organisation. Donc, l'organisation, il y a un comité qui le gère. Hein? Cette association-là est gérée par un comité. Le comité est composé de 4-5 membres. C'est mieux d'avoir une organisation avec un comité impair. Ça permet de délibérer. C'est-à-dire, il y aura toujours 2 ou 3 personnes. 3 personnes qui sont pour ou 2 personnes qui sont contre. 3 personnes qui sont contre, 2 personnes qui sont pour. Alors, ça permet de prendre des décisions plus facilement. Alors, donc, si vous avez des organisations du genre, alors les jeunes montent le comité et ils décident de créer l'organisation, de créer l'institution. Alors, ils peuvent aller chercher tous les autres membres du quartier pour devenir des membres. Alors, prenons par exemple, ils estiment la longueur. Hein, ils peuvent déterminer la zone géographique dans laquelle ils vont opérer, ils vont nettoyer, ils vont s'occuper de nettoyer les déchets dans ce quartier-là. Alors, ils peuvent recruter d'autres membres. Alors, ils montent un projet. Ils montent un projet de nettoyage. Un, il y a le comité. De 2, il y a les autres personnes qui sont devenues membres du comité. Et ces personnes-là qui vont s'occuper du nettoyage. Alors, ils montent le projet. Ils s'en vont directement avec un papier en tête, avec une organisation, avec une charte, avec des structures qui disent comment on fait. Mais d'abord, il faut qu'ils arrivent à s'entendre. C'est comment on va gérer l'argent et comment on va générer du revenu. Alors, s'il y a de l'argent qui rentre, voilà comment l'argent va être réparti. Parce que il ne faut pas surtout penser à des organisations seulement de bénévoles. Il faut penser à des organisations qui font de l'argent. Voilà ce qui nous manque dans ce pays-là. C'est le meilleur endroit pour pouvoir commencer à faire une belle expérience de gestion. Alors, prenons par exemple. Supposons qu'ils ont monté l'organisation, ils disent qu'on va s'occuper de nettoyer le quartier. Alors, ils estiment combien de personnes qu'ils auront besoin. Et s'il y a du monde qui vont à l'école le matin, il y en a qui vont à l'école l'après-midi. Il y en a qui sont occupés le week-end, il y en a qui sont pas occupés le week-end. Alors, ils peuvent bien répartir le nombre de personnes qui vont travailler et le nombre de personnes qui vont s'occuper de nettoyer le quartier. Alors, vous avez là tous les membres du comité, plus les personnes qui peuvent bénéficier de ce comité du quartier. Alors, ils s'organisent de telle sorte que le projet est monté, ils estiment combien ils peuvent payer chaque membre, combien ce sera combien le salaire, et par jour et par heure. Alors, ils ont un bon projet. Alors, s'ils ont monté le projet, ils ont bien structuré le projet, alors ils peuvent aller voir le maire de la ville. Ils vont voir le maire de Port-au-Prince, ils vont dire « Monsieur le maire », ils vont prendre rendez-vous avec le maire ou le département qui s'occupe de la voirie. « Monsieur, écoute, vous avez votre système de gestion de la voirie et du collecte des résidus solides. Nous vous proposons d'organiser le nettoyage de notre quartier. Nous allons nettoyer notre quartier. Voilà, nous avons tel groupe de personnes qui va travailler du lundi au mercredi, tel groupe de personnes qui va travailler du jeudi au vendredi, du samedi au dimanche. Alors, on a tout le monde qui sont prêts à travailler. Il y en a qui vont travailler le soir, des jours c'est pour le soir, des jours c'est le jour. D'autres jours c'est le soir, d'autres jours c'est la nuit. Alors, l'équipe est bien monté. Alors, vous pouvez dire au maire de la ville, voilà, nous avons un projet, monsieur, qui est estimé à temps. Alors, voilà ce que nous allons faire. Nous allons vous offrir notre service. Nous allons vous vendre notre service. Alors, vous pouvez vous entendre avec le maire pour lui dire, en l'expliquant très clairement, que son système de gestion de la voirie n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que X, parce que Y, parce que Z, problème qu'il rencontre. Alors là, monsieur le maire, si nous qui habitons dans le quartier, nous qui nous mettons au service du quartier, alors nous allons être plus efficaces, nous allons nettoyer, nous allons beaucoup mieux nettoyer et il y aura plus de patras. Alors le maire peut accepter ce projet-là. Et le maire peut prendre ce projet-là pour aller convaincre le ministère qui s'occupe de la voirie et de la gestion des collectes des résidus solides. Alors, vous venez de voir quoi? Vous venez de créer une institution qui est gérée par des jeunes, pour des jeunes, et qui crée de l'emploi pour des jeunes. Voilà tout ce qui pourrait faire toute la différence. Voilà comment également on peut décentraliser, déconcentrer le service de la voirie et réformer à la limite tout le système de gestion des déchets dans le pays, dans la ville. Alors, on peut reproduire ce même projet un peu partout dans le pays, hein. Partout dans le pays, on peut reproduire ce même projet. Il y a personne qui va dire que c'est pas bon, hein. Et tout le monde va se trouver là-dedans. Premièrement, on crée de l'emploi pour des jeunes. Deuxièmement, ce sont des emplois permanents. Et troisièmement, ce sont des moyens qui permettent de mettre de l'argent dans la poche des jeunes et qui augmentent l'activité économique. Voilà, les jeunes qui attendent quelqu'un de l'étranger ou de la parenté pour leur permettre de payer leur téléphone, ils vont avoir leur propre argent pour payer leur téléphone. Alors vous pouvez prendre tous les jeunes du quartier. Et une fois que de tel âge à tel âge, on peut limiter les choses. Exemple, on dit des jeunes qui dépassent 21 ans, ils ne sont plus capables de travailler dans ce projet-là. Alors on va le donner seulement aux jeunes de 15 ans jusqu'à 21 ans. Alors, à partir de 21 ans, vous ne pouvez plus être dans le comité pour travailler. Il faut aller trouver un autre job. Alors, vous comprenez, hein. Vous venez de créer de la job pour des jeunes, hein. Et vous aurez des jobs permanents pour les jeunes. Pourquoi? Au lieu de faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive à contrôler tout le système. Au lieu que ce soit des amitiés qui partagent de l'argent de la voirie, au lieu que le pays, la ville reste toute sale, alors vous allez avoir une ville toute propre. Voilà ce que nous avions toujours voulu faire dans ce pays. Alors, vous pouvez le faire par vous-même. Hein. Alors, prenons un deuxième niveau de projet. On va le dire pour des projets, pour des jeunes qui sont un petit peu plus avancés en âge. Alors, on va dire de ceux qui commencent de 20 ans jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans. Ils sont des universitaires ou bien ils sont des écoliers qui sont au collège, qui sont au secondaire. Alors, vous prenez des jeunes comme ça. Eux autres, ils peuvent assurer quelque chose d'autre. Ils peuvent aller monter un projet ensemble. Ils vont monter un projet de collecte des résidus solides. Alors, collecte des fatras dans la ville. Alors, vous avez des jeunes qui sont universitaires. Ils sont capables de monter un bon programme de projet, un beau projet. Et s'ils n'ont pas de projet, ils peuvent aller directement au ministère des Affaires sociales, au registraire des entreprises au ministère des Affaires sociales pour leur demander de leur présenter des cas, des exemples de projets déjà écrits, avec des chartes de projets d'organisation déjà écrits. On va vous le demander, on pourra vous le donner facilement, mon ami. Hein, vous le demandez au ministère des Affaires sociales, des projets qui sont déjà écrits, des plans d'organisation qui sont déjà écrits, parce que vous allez économiser sur le temps. Et deuxièmement, troisièmement, vous pouvez aller également sur Internet et chercher sur Internet charte d'organisation à but non lucratif, charte d'organisation à but lucratif. On peut aller le trouver. Mais il y a un autre endroit encore dans le pays que vous pouvez aller chercher tout ça. Et là, vous allez avoir des projets qui ont déjà été acceptés. Vous avez tout le plan, tout le programme des projets qui sont déjà réalisés ou bien qui sont en voie de réaliser. Et qu'il y a déjà eu du financement qui ont été sortis sur ces projets-là. Alors, c'est d'aller à la FAES. C'est le Fonds d'assistance sociale. Si vous allez au Fonds d'assistance sociale à la FAES, autrefois ça se trouvait à Delma. Alors, si vous allez au fond, vous allez au fond de la FAES. Alors, vous allez à la FAES, au FAES, vous allez leur demander de vous donner des modèles de plans de projets qui ont déjà été réalisés et qui avaient déjà été acceptés. Ils en ont tellement dans leur tiroir. Vous pouvez jusqu'à leur demander, et d'autant plus, vous pouvez avoir du monde qui vous assiste sur tout le processus de réalisation ou de l'écriture du projet. Ils vont pouvoir vous aider, ils vont pouvoir vous guider, ils vont vous donner les bons objectifs. Comment déterminer un objectif? Comment déterminer un but d'une organisation ou d'une entreprise sociale comme ça? Alors, si vous êtes allé chercher le projet, et vous avez trouvé le bon projet, alors vous pouvez tout simplement changer les noms, modifier les structures. Vous pouvez tout simplement ajouter ou modifier certaines choses qui ne correspondent pas à votre projet. Mais dans l'ensemble, la structure de l'écriture du projet est déjà là. Vous avez toute la base qui est là. Alors, donc, prenons par exemple des jeunes qui voudraient aller collecter le fatras pour pouvoir travailler en harmonie avec ceux qui font du nettoyage et de l'assemblage des fatras. Alors, vous pouvez aller chercher tout cet argent-là, mon ami. Alors, vous prenez des jeunes qui sont allés, qui sont au niveau secondaire et qui sont au niveau universitaire, qui montent leur propre entreprise financière ou sociale. Alors, ils créent des postes, ils créent des jobs, ils créent de l'argent. Alors, comment ils peuvent faire ça? Alors, ils vont pouvoir, avec la création de l'entreprise, avec la création du comité, ils ont mis le comité en place. Ils ont mis les structures. Ils ont déterminé combien ça pourrait coûter le projet. Le coût du projet. C'est nécessaire d'avoir un coût de projet. Alors, vous avez le coût du projet. Et là, vous pouvez soit aller à la banque, soit aller dans des entreprises qui financent pour leur demander de vous prêter de l'argent. Alors, au nom de l'association. Alors, vous imaginez, hein? Quand vous êtes parti dans le pays, vous n'avez personne, hein, vous connaissez personne, vous n'avez rien. Mais une fois que vous vous mettez ensemble pour créer une entreprise, une entité économique et sociale, cette entité économique et sociale est capable de donner un nom à chacun de ses membres. Et à partir de ce moment-là, au nom de l'organisation, au nom de l'entreprise, au nom de la société que vous avez créée, au nom de l'organisation que vous créez, vous pouvez avoir un nom pour vous C'est-à-dire que vous pouvez prendre rendez-vous avec n'importe qui, au nom de l'association, au nom de l'organisation, au nom de l'entreprise. Vous pouvez aller négocier, mon ami. Alors, vous pouvez aller négocier à la banque pour leur dire, écoute, messieurs, nous aurons besoin de 5 camions pour pouvoir collecter des fatras. Nous occupons de telles zones géographiques. Nous prenons ces 5-6 blocs de quartier que nous pouvons nettoyer et que nous pouvons enlever des fatras. Alors, cette même organisation peut se répéter un peu partout dans le pays, hein. N'oubliez toujours pas ça, hein. Alors, vous pouvez prendre cette organisation-là, qui s'occupe de la collecte des fatras. Alors, cette organisation-là est montée. Alors, au nom de l'association, au nom de l'organisation, vous pouvez aller négocier un prêt. Parce que on va vous prêter l'argent, pourquoi? Pas parce que vous avez un nom, mais parce que vous représentez une institution. Et deuxièmement, quand vous faites un prêt, vous prenez également une assurance sur les équipements que vous allez acheter. Alors, vous prenez un prêt auprès de la compagnie, auprès de la banque, auprès de l'institution financière, auprès de la coopérative financière. Vous prenez un prêt et ce prêt sert à financer d'abord le matériel et l'équipement que vous aurez besoin, une assurance pour couvrir ces biens-là au cas où ça tombe en panne, et troisièmement, vous pouvez également, à partir de là, faire en sorte que cette entreprise peut avoir un nom. Alors, vous ouvrez un compte au nom de cette organisation, de cette entreprise, de cette institution, de cette association-là, qui s'occupe de la collecte des résidus solides. Alors, vous pouvez déjà faire un lien avec les jeunes qui se sont mis ensemble pour pouvoir nettoyer et assembler les fatras, hein. Alors, si vous êtes avec eux autres, alors, vous allez travailler en harmonie et selon les mêmes horaires que eux autres, ils vont avoir. Alors, vous avez un camion qui sillonne dans les coins, dans 2-3 quartiers, dans les quartiers. Alors, tous les jeunes qui sont en train de nettoyer pendant le jour, exemple, s'ils travaillent du jeudi au vendredi, samedi, dimanche, alors tous les jeunes qui travaillent à nettoyer les quartiers du jeudi au vendredi, du jeudi au dimanche, alors, vous pouvez avoir votre équipe qui collecte les fatras les mêmes jours. Alors, en même temps qu'ils nettoient, c'est en même temps que vous ramassez. Alors, vous voyez, hein, d'un coup, vous avez tout nettoyé, vous avez tout remis le pays vous avez mis le pays propre, hein. Ça, c'est une stratégie. Alors, vous imaginez, hein, vous n'aviez pas d'argent. Vous êtes une petite soyette. Ou son petite soyette, maman, son monde cap bonne marché en bas, papa, son monde cap fait maçon, ou bien cap, peu importe, qui est commerçant, peu importe qui il est. Alors, de rien, on peut partir quelque chose. De rien, hein, du rien, on peut avoir beaucoup d'opportunités. C'est la meilleure façon qu'on peut le faire. Moi, je peux vous dire sincèrement, hein. Déjà, quand j'étais, à la fin de mon primaire, je commençais déjà à donner des cours particuliers. C'est cet argent-là que je prenais déjà pour pouvoir utiliser pour faire autre chose, pour dépenser dans mes affaires personnelles, pour acheter des pigeons, pour élever des pigeons. Hein? C'est cet argent-là que je prenais. Et quand je suis rentré à l'université, il faut pas le dire à personne, hein, ce que je vais vous dire. Hein? Il faut vraiment ne pas le dire à personne ce que je vais vous dire, parce que c'est un secret bien gardé. Seulement ceux qui étaient dans mon équipe le savent. Lorsque j'étais à la faculté de droit, j'avais créé ma propre faculté à la faculté de droit également. Vous imaginez, hein? J'avais mon université à l'intérieur de la faculté de droit. Hein? La faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Comment j'ai fait? Alors j'ai rassemblé mes amis et puis on donnait des cours de mise à niveau pour les étudiants qui venaient et qui étaient en première année, en deuxième année et jusqu'à troisième année. Hein, on donnait des cours. Hein. J'avais créé notre compagnie. Alors je salue hein, de loin, je salue tous les amis de Doshanko. Je les salue de loin. Hein. Vous vous reconnaissez. Hein. Hein. J'avais un bon ami avec qui j'avais partagé le projet. Et c'est lui, il me faisait confiance là-dessus. Alors on s'est fait confiance et puis on a lancé notre propre projet à l'intérieur de l'université. Alors tous les week-ends, nos cours étaient du lundi au vendredi. Mais du samedi au dimanche, on donnait notre propre cours. Alors, on était parvenu à négocier avec la direction, le décanat de la faculté, pour pouvoir offrir notre propre cours à la faculté. Vous imaginez, hein? On donnait nos propres cours à l'université, mon ami. Alors, j'ai fait beaucoup de choses, mon ami. Alors, voilà comment on était parvenu à créer un montant d'argent, un petit salaire pour tous les membres, pour tous mes amis. Tous mes amis, on se donnait un petit revenu. Tous les samedis et les dimanches, on avait un petit salaire qui rentrait. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait des cours. Et je peux vous dire sincèrement, hein, on avait beaucoup d'étudiants. Hein, et on avait des salles remplies. Hein, des cinquantaines, des soixantaines d'étudiants se trouvaient dans nos salles de cours. Hein. Alors vous imaginez tous les amis qui se mettent ensemble et qui donnent des cours. Voilà ce que j'ai fait déjà dans le passé. Alors, je vous invite à le faire par vous-même. Utilisez le capital social comme je l'ai fait. J'ai rassemblé mes amis. Alors, tous les meilleurs étudiants qui étaient les meilleurs dans les mathématiques, en macroéconomie, en microéconomie, en histoire de la pensée, etc., etc., en statistique, en mathématiques. Alors, on avait tous les meilleurs étudiants. D'autant plus qu'on donnait également des cours en droit. Hein. Alors, tous les étudiants qui étaient les meilleurs de la faculté, alors je les avais rassemblés. Je les avais rassemblés pour donner des cours. J'étais celui qui prenait l'initiative, mon ami. Alors, vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Vous êtes capable de partir de rien pour créer quelque chose de merveilleux. Vous êtes capable de créer votre propre boulot, votre propre travail. Alors, c'est la même chose qu'il faut faire, qu'il faut penser dans les autres secteurs également. Prenons tous les autres secteurs qu'il y a dans l'économie. Hein, des jeunes qui arrivent à se mettre ensemble pour pouvoir monter des associations ou bien des coopératives de crédit, des coopératives sociales, des coopératives. Combien d'étudiants qui terminent à la faculté d'ethnologie en travail social? Combien qui arrivent? Ces étudiants qui terminent un travail social en sociologie, en ethnologie, et qui est également ceux qui étudient à la faculté des sciences humaines, qui terminent un travail social. Et ces étudiants-là, ou qui travaillent, qui terminent également au IERA, c'est-à-dire Institut de Recherche Africaine. Alors, tous ces étudiants-là qui terminent, ils peuvent monter des projets. Ils peuvent monter des projets et se faire payer. Alors, vous imaginez, combien de personnes que je vous ai dit dernièrement qui se trouvaient dans les rues, sont en train de quitter. Si des étudiants qui terminent un travail social, en sociologie et autres, là, comme je viens de le mentionner, tous ces étudiants qui terminent, s'ils se mettent en association, une grosse association, qui permette de créer de la job pour du monde, alors ils peuvent aller défendre les autres, défendre les gens qui ne connaissent pas leurs droits. Juste aller défendre les gens qui ne connaissent pas leurs droits. Exemple, aller monter des projets, aider les gens à faire une carte d'identité. Alors, vous imaginez, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le pays, qui sont en train de quêter dans les marchés, qui sont en train de quêter devant les églises, qui sont en train de quêter dans les rues, qui sont en train de quêter à chaque carrefour, hein, à chaque coin de rue. Alors, ces jeunes-là qui terminent, qui montent un projet, des projets, pour aller défendre les gens qui ignorent leurs droits dans le pays. Ils peuvent se donner une job, ils peuvent se donner un pourcentage, ils peuvent même se faire payer leur emploi par la CAS et également par l'OFATMA et le ministère des Affaires sociales. Ils peuvent demander au ministère de leur payer leur salaire parce que ils se sont donné comme objectif de défendre ceux qui ignorent leurs droits, d'avoir droit à un salaire à tous les mois. Alors vous imaginez, hein, tous ces jeunes-là qui arrivent à monter des entreprises sociales comme ça, qui vont défendre ces personnes-là, ils vont les accompagner jusqu'au bout, prendre leur nom, où est-ce qu'on peut les retrouver, quand est-ce qu'on peut les retrouver, permettre à ces personnes-là d'aller prendre leur chèque qu'ils ont droit à la CAS tous les mois. Vous les accompagnez. Si vous les accompagnez, vous allez rendre service à la société, mon ami. Vous allez permettre à ces gens de ne plus quêter dans la rue. Vous allez leur permettre de pouvoir trouver un petit endroit pour pouvoir louer et dormir convenablement à l'abri de la chaleur, à l'abri de la pluie. Vous pouvez imaginer, hein, le nombre de choses que des jeunes qui terminent en sociologie, qui terminent en anthropologie, qui terminent en psychologie, qui terminent... D'ailleurs, vous pouvez ajouter des services et de psychologie pour eux. Vous pouvez les orienter pour aller prendre des traitements dans les hôpitaux, hein? Alors vous pouvez imaginer le nombre de choses qu'on peut réaliser en très peu de temps. Alors c'est quoi votre rôle comme étudiant et comme citoyen? Posez-vous la question, c'est déjà un moyen pour trouver la réponse.